en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Les fromages au lait cru sont-ils amis ou ennemis de notre santé ? Ils n'ont pas bonne réputation et pourtant les recherches les plus récentes démontrent les bienfaits des ferments lactiques. Sur ce sujet, vous allez pouvoir écouter deux spécialistes. Xavier Bertrand, pharmacien microbiologiste au service d'hygiène hospitalière au CHU de Besançon, et Dominique-Angèle Vuitton, professeur émérite d'immunologie à l'Université de Franche-Comté. Ces deux spécialistes sont intervenus dans le cadre d'une conférence organisée par la Fondation Sciences et Culture Alimentaire de l'Académie des Sciences. Canal Academy les a enregistrés à Arbois, dans le Jura, en septembre 2007.
Tout d'abord, en guise d'introduction, je vais vous rappeler que la France, ce beau pays, est un des pays qui consomme le plus d'antibiotiques au monde. C'est le deuxième en Europe derrière la Grèce. Et nos hôpitaux sont également des champions du monde pour la consommation d'antibiotiques. Donc non seulement nous consommons beaucoup d'antibiotiques, mais nous consommons des antibiotiques à large spectre, à la différence des pays nordiques qui consomment des antibiotiques à spectre étroit, donc actifs sur beaucoup moins de micro-organismes. Donc des antibiotiques plus anciens, nous on utilise des antibiotiques plus récents. Donc je ne vais pas essayer de vous démontrer, c'est clairement démontré, juste cette diapo pour l'illustrer. Quand on consomme beaucoup d'antibiotiques, on a beaucoup de résistance bactérienne. Et voici une ligne parfaite entre les pays, entre leur consommation antibiotique et le taux de résistance chez une bactérie qui est le pneumocoque, qui est une bactérie responsable de très nombreuses mortalités, notamment par pneumonie chez la personne âgée. Donc vous voyez qu'en France, on consomme beaucoup d'antibiotiques, on a beaucoup de résistance. Et ça marche à peu près pour tous les couples bactéries-antibiotiques. Donc maintenant, revenons à nos moutons, plutôt à nos bactéries, à notre antibiothérapie. L'antibiothérapie prescrite, où qu'elle soit, c'est-à-dire dans la communauté ou l'hôpital, entraîne un déséquilibre de la flore digestive. C'est comme si on balançait une bombe atomique dans un milieu, on détruit à peu près tout, pas tout ce qu'il y a, mais beaucoup de choses. Il faut savoir que nous sommes tous des sacs de bactéries. Dans votre intestin, il y a plus de bactéries que le nombre de cellules qui vous constituent. On doit à peu près avoir 10 puissance 13 cellules. Et on a 10 puissance 14 bactéries règnent dans l'intestin. Donc, il va y avoir une prolifération des bactéries résistantes et des champignons qui, enfin, comme leur nom ne l'indique pas, mais qui ne sont pas détruits par les antibiotiques. Donc, on va avoir les troubles digestifs à type de diarrhée, de colite, c'est clairement décrit à la suite de prise d'antibiotiques, et aussi des candidoses muqueuses, c'est-à-dire des petites taches blanches comme ça qui sont typiques, qui arrivent souvent après la prise d'un antibiotique. Et surtout, le problème le plus important à mon sens, c'est que cette consommation d'antibiotiques a un impact écologique sur la résistance. Nous sommes rentrés depuis une vingtaine d'années dans un véritable cercle vicieux, c'est-à-dire que on a plus de résistance, on consomme plus d'antibiotiques. À ce moment-là, on développe de nouveaux antibiotiques. La bactérie qui s'adapte va redéfinir d'autres niveaux de résistance. Et on arrive dans un cercle totalement vicieux où, dans quelques années, on peut avoir des bactéries qui ne seront plus sensibles à aucun antibiotique disponible. Surtout que l'industrie pharmaceutique a arrêté de produire des antibiotiques, pratiquement totalement arrêté. Donc, de nombreux experts prédisent que le 21e siècle sera le retour de l'ère pré-antibiotique, c'est-à-dire comme avant la Deuxième Guerre mondiale, quand on avait des maladies bactériennes sans antibiotiques disponibles pour les traiter. Donc, l'objectif de notre étude, c'était de démontrer si l'utilisation empirique de micro-organismes d'origine alimentaire, les lactobacilles, les bifidobactéries, les levures, qui sont présents notamment dans les yaourts et les levures, avaient un effet sur la prévention des effets indésirables induits par les antibiotiques. Mais il y avait peu d'études disponibles pour démontrer les effets probiotiques des produits laitiers. Ça avait été fait sur des bactéries isolées, les bifidobactéries ou les lactobacilles, mais pas sur des probiotiques si le fromage est considéré comme un probiotique. Donc, on a réalisé cette étude au CHU de Besançon. Donc, cette étude a été financée à la fois par un budget hospitalier et par l'interprofession des fromages à pâte pré-sécuite, c'est-à-dire Comté, Parmigiano Reggiano et Gruyère Suisse. Et on voulait étudier l'impact de l'antibiothérapie sur la flore intestinale et en partie sur la colonisation par des bactéries et des champignons potentiellement pathogènes. On avait retenu deux espèces bactériennes, Escherichia coli, qui est une des entérobactéries majeures au niveau intestinal et qui est responsable de nombreuses infections, aussi bien dans la communauté qu'à l'hôpital, les entérocoques, qui à un degré moindre sont aussi des bactéries importantes en termes de pathogénicité, et la principale levure responsable d'effets cliniques, les Candida albicans. Et au cours de donc on a fait une première phase où on a fait consommer par des gens un antibiotique. Et au cours de la deuxième phase, on a fait consommer ces mêmes antibiotiques et en même temps, on a fait consommer du fromage pour voir si ça avait un effet. Donc voici le résumé du protocole. Donc on avait 18 volontaires sains qui ont participé aux deux phases. Donc la phase 1 s'est déroulée entre 2002 et 2003. Ils étaient inclus de J-12 à J-61. ils recevaient de l'antibiotique de J0 à J5 et ils avaient un régime sans produits laitiers fermentés et sans lait cru de J-5 à J19. Pendant la phase 2, on avait exactement le même programme. Simplement, entre J-5 et J19, ils consommaient 100 grammes de fromage expérimentaux. Donc, les 18 étaient répartis en deux groupes. L'un consommait du lait cru, un fromage fait avec du lait cru et l'un avec du lait pasteurisé. Pour les analyses microbiologiques qui étaient de mon ressort, donc on faisait des prélèvements de sel chez les volontaires sains à chacun des jours qui est cité ici et on analysait la flore bactérienne. Donc chez les entérocoques, je vous l'ai dit, les Escherichia coli, et on étudiait l'étude de la résistance à l'amoxicilline. J'ai oublié de vous dire que l'antibiotique administré, c'est de l'augmentin, c'est-à-dire c'est une association d'amoxicilline et d'un inhibiteur des bêta-lactamases. Donc c'est l'antibiotique le plus consommé en France à l'heure actuelle. Et on a également analysé la flore fongique sur des gélos spécifiques. Donc dans le protocole, il y a eu trois fabrications de fromage avec de levains lactiques identiques. Donc les levains lactiques, c'est ce qu'on ajoute là, c'est la cochonnerie qu'on ajoute. Et ça a été chauffé à 54, il y avait du lait pasteurisé et du lait cru, donc on avait une grosse cuve initiale, on a séparé en deux, enfin c'est comme ça que c'est passé. Hein. Et donc il y a eu un affinage de 6 mois, avec une croûte emmourgée, donc avec le truc plein de bactéries aussi dégueulasse, et on avait deux fromages, du lait pasteurisé et du lait cru. Quelles bactéries il y avait dans les fromages? Donc dans tous les fromages, il y avait des lactobacilles thermophiles, donc c'est ce qu'on a ajouté, donc les deux espèces qu'on a ajoutées pour ensemencer les laits. Donc il y en avait à peu près des quantités normales, des quantités équivalentes entre les laits crus et les laits pasteurisés. Les streptocoques thermophiles également, il y en avait à peu près la même quantité. Par contre, ce qu'il y avait dans les laits crus et qu'il n'y avait pas dans les laits pasteurisés, c'est des lactobacilles mésophiles et des bactéries propioniques, et également des entérocoques. Donc ces trois grands types d'espèces, ces trois grands groupes bactériens étaient représentés uniquement dans les fromages ou laits crus et pas dans les fromages ou laits pasteurisés. Première conclusion rapide, il y a une beaucoup plus grande richesse en micro-organismes dans les fromages ou les crus. Donc les micro-organismes sont en quantité plus importante, mais surtout, ça c'est pas très important, il y a une beaucoup plus grande diversité en termes d'espèces, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'espèces bactériennes présentes dans le fromage ou les crus, et surtout en termes de souches, c'est-à-dire que dans une espèce, il peut y avoir une souche, deux souches, mais il peut y en avoir beaucoup plus. Donc on a beaucoup plus grande variété dans les fromages ou les crus. Donc ensuite, moi, la partie dont je me suis spécifiquement occupé, c'était les analyses bactériologiques. Donc on a compté les bactéries, simplement, les colis et les entérocoques. Et on s'aperçoit qu'après la prise d'antibiotiques, donc voici là c'était avant, on prenait l'antibiotique à J0 jusqu'à J5. Donc il y avait une diminution des Escherichia coli dans les selles et une augmentation des entérococcus après l'antibiothérapie, mais ces variations n'étaient pas significatives. Donc on a essayé de comparer le lait cru au lait pasteurisé et on n'a pas retrouvé de différence. Globalement, on avait un peu plus de bactéries dans le lait cru que dans le lait pasteurisé, mais il n'y avait pas de différence significative, donc je ne vais pas vous en parler tout de suite. Allons-y, on va aller vers ce qui est intéressant. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'est de savoir si le fromage était capable de moduler l'émergence de la résistance à l'amoxicilline. Et on a regardé la première espèce, c'est les entérocoques. Voici pendant la première phase, donc quand les volontaires ne consommaient pas de fromage, on avait à J5, c'est-à-dire au pic d'antibiothérapie, puisqu'on prenait des antibiotiques de J0 à J5, on avait 10 puissance 6, c'est-à-dire 1 million de bactéries par gramme de sel, 1 million de bactéries résistantes par gramme de sel, d'entérocoques résistants à l'amoxicilline, donc l'antibiotique qu'on avait administré. Vous voyez, ça faisait un plateau à J8, à J12, et ensuite ça redescendait à peu près doucement, mais avec un rebond à J61 qu'on n'a pas pu s'expliquer. Donc dans la deuxième phase, celle où on consommait du fromage en même temps que l'antibiotique, on avait des bactéries résistantes avant la prise, enfin c'était seulement chez deux volontaires. On revenait à 0, à J0, et on avait de la même façon un espèce de pic de bactéries résistantes liées à la consommation antibiotique. Mais ce qui était très intéressant, c'est que ce pic culminait à 10 puissance 3, c'est-à-dire 1000 bactéries par gramme. Donc on avait une diminution de l'ordre 1000 entre avec et sans fromage. Et maintenant, si on regardait toujours pour les entérocoques, et toujours si on exprime l'antibiorésistance en termes de fréquence, c'est-à-dire quel est le pourcentage de bactéries résistantes parmi l'ensemble des bactéries analysées, pendant la première phase, on atteignait un pic de 6%, alors que dans la deuxième phase, on avait 0,02%. Par contre, on n'avait aucune différence entre les volontaires qui consommaient du lait cru et ceux qui consommaient du lait pasteurisé. Pour faire un bilan sur l'antibiorésistance, pour Escherichia coli, la consommation de fromage entraîne aucune modification du nombre de souches résistantes à l'amoxicilline. Donc il n'y a pas d'effet de la consommation de fromage sur l'émergence de la résistance au sein de cette espèce. Par contre, chez Escherichia coli, si on comparait le lait cru et le lait pasteurisé, il semblerait que chez les volontaires qui consommaient du lait cru, le pic d'antibiorésistance soit moins haut et le retour à la normale soit beaucoup plus rapide que chez les volontaires qui consommaient du lait pasteurisé. Maintenant que je vous ai parlé des bactéries, je vais vous parler des champignons, des analyses mycologiques. Donc voici la prévalence des espèces isolées dans les prélèvements de sel. Donc on a recherché les champignons dans les prélèvements de sel des volontaires. Donc on avait 44% de positifs dans la phase 1 sur les 180 prélèvements, dans la phase 2 53%, et on avait une différence entre les crus, seulement 47% de prélèvements positifs, et les pasteurisés 74%. Et la prévalence de candida albicans était équivalente dans la phase 2, mais il y avait une différence entre le lait cru et le lait pasteurisé, c'est-à-dire que les volontaires qui consommaient du lait pasteurisé avaient plus souvent de candida albicans dans leur sel que ceux qui consommaient du lait cru. Si on s'intéresse à la diversité, au cours de la phase 1, on n'avait que 7 espèces isolées, en plus de candida albicans, et pendant la phase 2, alors que les volontaires consommaient du fromage, on avait une plus grande diversité des levures isolées dans les selles des patients. Donc il y avait une plus grande variété d'espèces en phase 2. Maintenant, si on regarde la cinétique de la colonisation fongique, c'est-à-dire comment évoluent les levures au cours du temps, au cours de l'étude. Ici, donc ce qui est surtout intéressant, c'est Candida albicans en rouge. Donc, vous voyez qu'on a un certain seuil à J5, J0, et ensuite, avec consommation antibiotique, on a un pic de colonisation par Candida albicans qui ensuite revient plus ou moins à la normale avec un rebond à J33 qu'on peut difficilement expliquer. Donc ceci c'était pendant la phase 1 sans consommation de fromage. Si maintenant on s'intéresse à la phase 2 avec consommation de fromage, pour les volontaires qui ont consommé du lait cru, on avait toujours quelques candidats qui traînaient avant la prise antibiotique. On avait un pic très important à J5, c'est-à-dire la fin de l'antibiothérapie, puis un retour à la normale assez rapide. Pour le lait pasteurisé, on avait toujours un bruit de fond des candidats albicans dans les selles, dans la flore intestinale. On avait un pic à J5, un retour à la normale, mais ensuite une remontée. Pourquoi, on ne savait pas exactement pourquoi. Ensuite, Eric a décidé de faire des travaux complémentaires à cette étude pour savoir si les bactéries qui étaient apportées par le fromage traversaient la sphère digestive et se retrouvaient dans l'intestin. Parce que pour que les bactéries qui sont apportées par un probiotique, qui soit un fromage ou autre chose, puissent être actives, puissent avoir un effet potentiellement positif sur la santé, d'ailleurs, je ne veux pas répondre à ta question, je ne sais pas si les produits lait cru ont un effet positif sur la santé. Je pense que c'est un effet positif sur le goût, alors sur la santé, je suis incapable de te répondre. Donc là, on voulait quand même savoir si les bactéries qu'on consommait se retrouvaient dans les selles pour qu'elles puissent être actives. Donc ici, c'est l'exemple de trois patients, les patients P2V6, P2V8, patients volontaires, P2V6, P2V8, P2V3. Ici, c'est les bactéries qui étaient détectées dans les selles. Et vous voyez qu'ici, comme on leur a mis un régime sans produits fermentés, bon, il y a une certaine décroissance. Et à J0, ils n'avaient pratiquement plus de bacilles, de bactéries propionniques dans leurs selles. Et comme ils consommaient du fromage, après, hop, ça remontait. Exactement comme ça. Ici, c'est le lait pasteurisé. Il n'y a pas de bactéries propioniques dans le fromage. Il n'y en a pas dans les selles. Oui, ça paraît évident, mais il fallait quand même le démontrer. Là, on a fait la même chose avec les lactobacilles mésophiles. Donc ça, c'est chez les volontaires qui consommaient du lait cru. Donc on avait une décroissance exactement de la même façon parce qu'on avait un régime appauvri, qui ne devait plus comporter de produits laitiers. Et ensuite, on leur faisait consommer du fromage, donc ça augmentait. Par contre, chez ceux qui consommaient du lait pasteurisé, de la même façon que tout à l'heure, de façon un peu moins systématique, parce qu'on a quand même quelques pics, il y en a quelques-uns qui ont dû tricher, qui ont dû consommer du fromage, on avait dans les selles pas de bactéries mésophiles, puisque normalement, il n'y en avait pas dans le fromage. Donc, en guise de conclusion, sur l'étude qu'on a menée, on peut dire qu'il y a une plus grande diversité, une plus grande biodiversité lors de l'apport de fromage au lait cru, comparativement au lait pasteurisé.
Donc on va d'abord parler des choses un peu générales sur l'allergie et en particulier d'une augmentation sans précédent des maladies allergiques, c'est-à-dire celles qu'on appelle l'asthme, le rhume des foins, l'eczéma des petits-enfants qui ensuite passent et puis après ils font un asthme, etc. En général, les parents en avaient aussi, ou la grand-tante, ou la grand-mère, ou le grand-père. Donc ces maladies un peu familiales qui se caractérisent par une réactivité anormale, hein, une réponse anormale, c'est la définition du mot allergie, à des substances présentes dans l'environnement, alors environnement qu'on mange, environnement qu'on respire à l'extérieur, qu'on respire à l'intérieur, tout ça fait le grand paquet, je veux dire, des maladies allergiques qu'on appelle atopiques, justement, puisqu'elles ont ce caractère un peu familial. Donc, augmentation sans précédent de ces maladies au cours des 40 dernières années. Si on compare, et ça a été fait dans un grand nombre de pays, la fréquence de ces maladies il y a 40 ans et la fréquence maintenant, on voit une augmentation qui n'a cessé d'augmenter. Maintenant, on a l'impression d'arriver à un plateau qui a été d'abord parfaitement visible dans les pays nordiques, dans les pays scandinaves, en Allemagne, aux États-Unis, en Australie, hein, donc des zones, je dirais des pays très développés. Et la France s'est mise un petit peu plus tard à rattraper le mouvement. Les pays latins, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, etc. de même, encore un peu plus tard que nous. Mais maintenant, tout le monde a emboîté le pas et on voit comme ça les pays rattraper progressivement le taux d'allergiques dans la population qui maintenant est largement le quart de la population générale. Alors, une maladie qui touche le quart d'une population, finalement, c'est assez rare, surtout quand il s'agit de maladies chroniques. Curieusement, on en parle beaucoup moins que beaucoup d'autres maladies, mais il faut quand même se dire qu'actuellement, alors qu'il y a 40 ans, on était à moins de 10%, on est à plus du quart de la population qui est atteinte d'une forme ou l'autre de ces maladies. Alors, ce qui a rapidement frappé les gens, c'est que il y avait plus d'allergiques dans les villes que dans les campagnes. Il y a même un médecin, il y a longtemps, au 18e siècle, un médecin anglais, qui disait que l'allergie, c'était la maladie des nobles, des riches, du roi, de la famille royale, etc. Et que les paysans, ben, curieusement, alors qu'en particulier, ben, ils respiraient plein de pollen quand ils faisaient leur foin, etc., c'était les moins atteints, par exemple, par l'asthme, par les maladies de ce type, le rhume des foins, etc. Donc c'est une vieille observation, mais qui nous a rattrapés, puisque là, c'est devenu tout à fait flagrant, et on a vu hein, que c'était d'une part lié à l'urbanisation, et d'autre part lié au ce qu'on peut appeler le développement, hein, au sens pays développé, c'est-à-dire pays riche, mais aussi avec un certain niveau d'hygiène, avec un certain style de vie qui est devenu un petit peu commun à nos pays européens de l'Ouest et aux États-Unis. Et on a tout de suite pensé que c'était à cause de la pollution, ou parce que notre alimentation avait changé. Et en fait, toutes les études qui ont été faites dans les années 70-80 dans les pays où on voyait commencer cette augmentation n'ont rien montré, si ce n'est que oui, si on est dans une ville très polluée, on fera des crises d'asthme un peu plus souvent, mais c'est pas pour autant qu'on deviendra plus asthmatique, hein, plus allergique. Donc, on s'est progressivement tourné vers autre chose, c'est-à-dire pas quelque chose qui vous rendait plus malade, mais peut-être quelque chose que vous aviez perdu ou que votre famille avait perdu et qui l'empêchait d'être malade avant. Hein, en gros, c'est un peu ça l'évolution. Et donc, on a d'abord vu, donc il y a eu tout un tas d'études qui ont été faites et qui ont montré l'effet protecteur potentiel des infections de l'enfance. Aussi, l'association entre l'allergie et les traitements antibiotiques. On a vu que les traitements antibiotiques détruisaient la flore intestinale. Hein. On a vu aussi qu'on était d'autant plus allergique qu'on est d'une famille peu nombreuse. Et puis, que ce qui était important apparemment, c'était des facteurs protecteurs potentiels qu'on avait rencontrés quand on était tout petit. Et que finalement, ben oui, on semblait bien être protégé contre l'allergie par certains types d'alimentation, en particulier si on mange, je dirais, comme on mangeait à la campagne il y a 50 ans, en gros. Hein, et il y a eu des très belles comparaisons qui ont été faites entre des pays très voisins, mais qui étaient d'un niveau de développement différent. Et ça a été magnifique quand le mur est tombé et que l'Union soviétique a explosé. On a pu comparer l'Allemagne de l'Est versus l'Allemagne de l'Ouest, l'Estonie, Lituanie, etc. versus la Suède, Norvège. Et on a bien vu ces différences. On a pu voir aussi l'influence de certaines parasitoses, mais ça, j'y reviendrai pas. Et puis, surtout, s'est dégagé l'environnement de la ferme, hein, qu'il y avait un certain environnement qui protégeait. Et je dirais que cette famille exemplaire, qui m'est assez proche, et bien jurassienne, 11 enfants vivant à la ferme, enfin, pas trop riches, même assez pauvres, c'est fantastique, pas un allergique sur les 11. Effectivement, ça reproduit tout à fait bien tout ce qu'on a observé par là. Donc, il y a tout un tas de références, de grandes études qui ont été faites. Alors, quels facteurs pourrait effectivement être important dans cette différence entre les gens qui deviennent allergiques et les gens qui ne le sont pas. Il y a eu de très belles études qui ont été faites justement dans ces comparaisons entre l'Estonie et la Suède, hein, tout au nord de l'Europe. Donc Estonie, pays entre guillemets sous-développé, hein, quand on a fait ces choses-là, très très rurales, que des fermiers, etc. Et on a pu s'apercevoir que la flore intestinale des enfants des pays occidentaux développés comme la Suède, par exemple, était totalement différente de celle des autres enfants. En gros, la flore de nos enfants est une flore d'adultes très, très tôt, hein, et elle perd rapidement ses caractéristiques. Et la flore intestinale des enfants allergiques, c'est-à-dire leur microflore intestinale, elle est différente de celle des enfants allergiques. Et en particulier, on peut voir que les enfants non allergiques, des milieux ruraux, fermiers, etc., restent très très riches en lactobacilles pendant très très longtemps, et ils ont une diversité de flore très importante, hein, alors que très rapidement, les enfants qui deviennent allergiques ont des flores qui sont dominées par colis, clostridium, donc tout à fait d'autres gènes. Alors, il y a un rôle avec de la microflore de la mère, hein, puisque la première contamination, ce qui fait toutes ces bactéries, le sac de bactéries dont parlait Xavier tout à l'heure, la première fois qu'on respire en passant à travers notre mère pour sortir, c'est ça qui ensemence. On parle d'ensemence pour les fromages, mais on est ensemencé à la naissance. Et donc, on a pu montrer qu'il y avait une certaine relation aussi. Si la mère a pris des antibiotiques, si elle a modifié sa flore intestinale, eh bien, elle va ensemencer différemment son enfant, qui va lui-même pouvoir faire des allergies. Alors, on peut reproduire expérimentalement ça, hein, en modifiant la flore intestinale. Il y a des modèles qui ont été faits. Alors, ce qui est très intéressant, c'est une étude finlandaise. Ils n'ont pas donné du fromage au lait cru, parce que alors là, c'est totalement proscrit dans ce pays. Mais ils ont donné des yaourts enrichis en lactobacillus rhamnosus. On a vu qu'il y en avait, hein, dans nos bons fromages, là, pendant la grossesse, chez la mère, et chez l'enfant, pendant la première année de la vie. Et ils ont des résultats assez fantastiques, je pense qu'ils n'y croyaient pas eux-mêmes. Il y a effectivement une protection contre les manifestations de l'allergie, il y avait une protection contre l'apparition de sensibilisation, comme on dit, allergique dès la première année, au bout d'un an, puis au bout de deux ans. Maintenant, ils ont des enfants qui ont 6 ans, 7 ans, et ils continuent à voir cette différence, hein. Donc il y a vraiment un rôle là. Alors, ce qu'ils ont pu voir, c'est que il y avait effectivement une certaine persistance de ce lactobacille dans l'intestin des petits-enfants, mais surtout une augmentation de la complexité de la flore intestinale. Hein, le fait de rajouter quelque chose modifiait quand même aussi leur flore et les rendait plus diverses, et qu'il y avait une relation entre la protection contre l'allergie et la persistance de cette flore probiotique dans l'intestin de l'enfant. C'est pour ça que l'étude que Xavier vient de montrer, d'essayer de voir ce qui persiste, ce qui passe réellement dans l'intestin, est important, puisque comme ça on peut un peu suivre et savoir de quoi on cause. Il est vite apparu à partir de toutes ces observations, donc les gens se sont concentrés, ils ont vu que c'était dans le milieu rural, que c'était plutôt dans la ferme, et donc ils ont voulu confirmer les choses. Il y a une très belle étude qui a été faite en Suisse, en Autriche, en Allemagne, et ça a été confirmé, je vous ai mis, hein, en Suède, en Finlande, en Norvège, au Danemark, en France, au Canada, aux USA, etc. C'est-à-dire que presque partout, on retrouve cet effet protecteur. Quand on vit dans une ferme, quand on est petit, quand ses parents sont fermiers, eh bien, on aura moins d'allergies que les autres enfants. Donc ça, c'était tout à fait clair. Et il y a quelques exceptions qui confirment la règle, et encore, quand on va regarder dans les coins des études, on s'aperçoit que les conclusions qui disent « ben non, on n'a pas vraiment retrouvé ça », c'est pas si vrai que ça, et qu'il y a quand même des choses importantes, on en reparlera après. Il y a eu, à partir des premières observations, une étude qui combinait donc des enfants de Suisse, d'Autriche et d'Allemagne. C'est ce qu'on appelle une étude transversale. On prend des enfants, en vrac, je dirais, hein, à 6-7 ans, 8 ans, 9 ans, etc., et on voit comment ils ont vécu leur petite enfance. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle une étude transversale. Il faut qu'ils se souviennent, que leurs parents se souviennent ce qui s'était passé, où ils habitaient, etc. Donc, c'est des études qui sont moins, qui donnent des résultats moins flagrants que les études, comme je vous la montrerai après, mais qui sont quand même très intéressantes, parce qu'ils ont vraiment montré qu'il y avait ce qu'on appelle la prévalence de l'asthme, c'est-à-dire la fréquence parmi ces enfants, hein, de l'asthme, de la rhinite, hein, le rhume des foins en particulier, de la présence de signes d'allergie, hein, ce qu'on dose dans le sang pour détecter l'allergie, qui sont les IgE, plus faibles chez les enfants d'agriculteurs. Et évidemment, ils ont essayé d'aller plus loin, hein, donc ils avaient des questionnaires très bien faits, tout ça, et ils ont montré que la protection était d'autant plus marquée que le bébé, pendant sa première année de vie, mais aussi la mère pendant sa grossesse, avait été exposée à l'environnement de l'étable. Hein, ils étaient allés dans l'écurie, comme on dit chez nous, pour la traite, etc. Les femmes travaillaient, bien sûr, avec leurs maris, des fermes traditionnelles. Et les bébés, ben, on les pose aussi à l'écurie quand on travaille. Hein, c'est comme on a toujours fait quand on était petit, mais ça se fait plus. Beaucoup moins maintenant, on peut le voir d'ailleurs. Et donc, l'exposition à l'environnement de l'étable, mais aussi la consommation de lait cru de la ferme, de ses enfants avant l'âge de 1 an et de leur mère pendant la grossesse, apportait effectivement la protection. Hein, donc la protection est liée tout particulièrement à ces deux éléments-là. Alors évidemment, c'est des gens qui font très très bien leur travail. Donc évidemment, on tient compte de la génétique, du tabac, du etc. On élimine tous les facteurs qui pourraient troubler la réflexion. Hein, mais ça, il y a des moyens mathématiques pour faire ça. Et on peut sortir effectivement que c'est bien que le lait cru en particulier a cet effet protecteur. Donc, environnement de la ferme. Quel facteur de protection? Évidemment, on peut penser aux micro-organismes, hein, les bactéries, les moisissures. Il y a aussi des gens qui ont pensé aux parasites, parce que c'est vrai qu'il y a 50 ans, dans des pays comme les nôtres, tous les enfants étaient vermifugés, parce qu'on savait bien qu'ils avaient des vers et que bon. Donc ça a été une des hypothèses, mais qui est pour le moment pas vraiment retenue. Donc on se dirige plutôt vers les bactéries et les moisissures, les champignons, les levures, etc. Alors, d'où ça vient? Alors ça, je peux poser aussi la question aux spécialistes du lait cru. D'où vient la flore du lait cru? Parce que il y a aussi, bon, effectivement, la bouse de vache, hein, la flore intestinale des animaux, dans les étables elles-mêmes, il y a des micro-organismes, la grange, la paille, le foin, il y a tout un tas d'éléments. Hein, ben, je crois que c'est Eric qui disait tout à l'heure que effectivement, on retrouvait certains des micro-organismes dans le foin utilisé pour l'alimentation des vaches. Donc, bon, il y a tout un travail à faire pour, bon, qu'on commence à faire. Hein, et il y a une étude très récente qui est très intéressante, qui a montré que la poussière des étables, hein, alors bon, ils ont fait un peu de purification, etc. Ils n'ont pas simplement mis la poussière dans une petite boîte pour voir ce que ça donnait. Hein, module certaines cellules de l'immunité, hein, et module aussi l'apparition de crises d'asthme. C'est un modèle expérimental. Hein, on fait ça chez des souris. On peut induire des crises d'asthme chez la souris et on peut protéger les souris en les mettant dans un environnement riche en poussière de ferme, hein, d'étable. Alors le problème de savoir, c'est si ces micro-organismes sont des micro-organismes vivants ou non, hein, parce qu'il y a aussi tout un tas de débris, de bactéries qui ne sont plus vivantes, etc., qui peuvent avoir des effets sur l'immunité. D'autres substances, bon, il y a d'autres antigènes d'origine animale, hein, de la vache, hein, mais aussi des chats, des chiens, tout ce qui circule dans une ferme. Nous, on a fait, bon, ça ne touche pas directement le lait cru, quoique dans le lait cru, il doit bien y avoir un peu de grains de pollen qui tombent de temps en temps, hein, et pas que des micro-organismes. Bon, il est sûr que les gens dans nos fermes, hein, les fermes d'élevage laitier, puisque quand même cette protection, elle est d'autant plus forte qu'il s'agit de fermes d'élevage, et d'élevage pour faire du lait, ou du fromage, mais ça va souvent avec. On a mesuré le pollen, hein, qu'un agriculteur moyen respire quand il manipule son foin pour donner à manger à ses vaches, et on s'aperçoit qu'en une seule opération d'enfourragement, il a respiré pratiquement autant de pollen que vous et moi pendant toute la saison des pollens du mois de juin, juillet, août. Donc, il y a certainement un rôle aussi avec ça. Et puis bon, ce qu'on ne sait pas trop, c'est quels sont les liens avec les facteurs de génétique de prédisposition à l'atopie. Il y a certainement des interférences entre la génétique et l'environnement. Pour vérifier tout ça, donc c'est pour vous présenter un petit peu l'étude qu'on a faite en partie dans la région. Donc c'est une étude qui s'appelle au plan européen Pasture, évidemment, ça veut dire pâture en bon français. Hein, nous l'appelons donc pâture. Donc c'est une étude où on a suivi depuis la grossesse de la mère, et on suit les enfants. Ils vont avoir 4 ans ces jours-ci, là, tous nos enfants. 500 enfants vivant à la ferme et 500 vivant en milieu rural mais non fermier, donc dans 5 pays européens, en Bavière, en Suisse alémanique, dans la région de Saint-Gall, dans le Tyrol, dans la région de Copio, qui est la ville jumelle de Besançon, paraît-il, et donc chez nous en Franche-Comté. Hein. Et donc, bon, il y a un gros travail qui est fait autour de ces familles, hein, que nous chouchoutons grandement. Il y a pas mal de familles de cette région, hein, d'Arbois. Et donc, il y a des questionnaires, on fait des prélèvements dans les fermes, on fait des prélèvements dans leurs champs, on fait des prélèvements de lait. Et on fait bien sûr des prélèvements de sang pour voir un petit peu l'immunité, comment ça fonctionne, etc. Et un programme complémentaire s'attache plus particulièrement à l'analyse de l'environnement de la ferme, qui est pilotée donc par mon collègue parasitologue et mycologue Renaud Pierroux au CHU de Besançon. Donc voilà ce programme. Donc je dis actuellement les enfants ont 4 ans et donc on va les suivre de toute façon formellement jusqu'à 7 ans. Alors le phénomène lait cru, parce que bon, il fallait que je vous donne quand même un peu le contexte pour que vous puissiez comprendre pourquoi on s'intéressait au lait cru. Eh bien, parce que dans toutes les études que je vous ai citées, là, dans tous les pays du monde pratiquement, qui avaient mis en évidence le rôle de la vie à la ferme, eh bien, pour tous ceux qui avaient recherché, tous n'ont pas recherché le facteur lait cru, mais la plupart des gens avaient quand même recherché, ils ont vraiment, s'il y a une chose constante dans toutes ces études, je dirais même dans celles où on ne trouvait pas de lien direct avec l'environnement de la ferme, c'est effectivement la consommation de lait cru pendant la première année de vie de l'enfant. Alors on a vraiment l'impression qu'il faut que les choses se passent très tôt. Hein? Donc, donner du comté dès 6 mois. c'est très évident, hein, et c'est indépendant des autres facteurs. Dans l'étude d'Alex, je vais vous montrer une ou deux figures pour faire un peu scientifique quand même. Et c'est une étude récente, une étude faite d'ailleurs par l'équipe de ce monsieur qui s'appelle Strachan, là, qui est un Anglais, qui a été le premier à dire, mais finalement, il doit y avoir un facteur protecteur. Il est ce qu'on a appelé l'hypothèse hygiène, hein, en disant c'est que moins on était hygiénique, et finalement moins on avait d'allergies. Hein. Plus on est hygiénique et plus on est allergique. Donc c'est lui qui avait lancé l'idée, et donc il a refait une grosse étude récemment en Angleterre qui montre, hein, que effectivement le lait cru apparaît comme un facteur protecteur. Le fait de consommer de lait cru, c'est une influence qui est indépendante de la vie à la ferme, c'est-à-dire que si vous avez un enfant qui a bu du lait cru quand il était petit, même si ses parents étaient banquiers ou employés du gaz, eh bien ça marche. Hein. Donc, et c'est parmi les choses qu'on a retrouvées dans notre étude Pâture, c'est responsable d'une moins grande fréquence de sensibilisation aux allergènes, une réduction de 60% de la production de ces anticorps de l'allergie, qui sont les IgE, et d'une augmentation de la production de substances particulières de l'immunité, dont on pense maintenant que justement elles s'opposent à l'apparition de l'allergie, qui est l'interféron gamma. Donc c'est une étude qui confirme vraiment bien cette impression donnée par toutes les autres sur l'importance du lait cru. Et comme je vous disais, même dans une étude crétoise et une étude néo-zélandaise où l'effet ferme ne sortait pas formellement, l'effet lait cru sort, et même en Crète, ça sort surtout chez les enfants de la ville. Hein, parce que je pense que ça fait plus de différence avec ceux de la ville qui n'ont pas bu de lait cru qu'avec ceux de la campagne. C'est pour ça que ça peut sortir qu'en ville. Tout ce qui est symptomatologie, asthme, symptômes d'asthme, rhume des foins, symptômes de rhume des foins, on voit bien que là, on fait très fort, on arrive pratiquement à des gens qui n'ont plus aucun risque de faire des maladies allergiques. Alors ça, c'est pour l'enfant pendant sa première année de vie. Et puis, là, c'est pour les mères. Hein. Parmi les enfants qui étaient déjà protégés, on a pris ceux dont les mères avaient mangé du lait cru et vécu à la ferme et participé aux travaux, hein, et ceux qui n'avaient pas. Donc, en jaune, ceux qui n'allaient pas tous les jours ou qui ne buvaient pas de lait cru tous les jours. Et en bleu, ben on voit que par exemple pour le diagnostic d'asthme, il n'y a pas un enfant de ces mères fantastiques qui ont été exposées tous les jours qui a de l'asthme. Pour le rhume des foins, c'est vraiment une énorme différence, hein, puisque ça va de 7% à 0,8%. Donc il y a vraiment un effet lait cru à la fois de la consommation de l'enfant et de la consommation de sa mère pendant sa grossesse. Alors, ça c'est tout nouveau parce que ça n'avait pas été publié encore. Hein, c'est les premiers résultats qui sortent de la fameuse cohorte Pâture, là, à laquelle on a participé. Et donc, ça se regarde de cette façon. Hein, ça illustre une fois de plus le phénomène lait cru. Donc là, on a regardé deux substances immunologiques, hein, on appelle le TNF et l'interféron, mais ça, peu importe le mot, c'est deux substances qui change votre immunité de telle façon que vous soyez bon pour vous défendre contre les microbes, mais justement pas bon pour faire de l'allergie. Hein. Donc, on a essayé de voir, bon, on a vu déjà une chose, c'est que les fermiers, les enfants de fermiers à la naissance, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas, ils sortent du ventre de leur mère. La seule exposition qu'ils ont eue à l'environnement de la ferme, c'est par l'intermédiaire de leur maman. Hein, puisqu'ils n'ont pas encore bu de lait cru eux-mêmes, ils n'ont pas été dans la ferme, enfin, en général, ils ont tous accouché dans des maternités fort aseptisées et pas du tout dans la chambre à coucher de leurs parents. Hein. Donc, à la naissance, sur le sang du cordon, on voit déjà des différences. Les enfants des fermiers font plus de ces hormones de l'immunité, la TNF et interféron, que les enfants des ruraux non fermiers. Hein. C'est vrai pour les Franc-Comtois, c'est vrai pour les Finlandais, c'est vrai pour tous. Et si on prend tout le monde et qu'on essaie de voir qu'est-ce qui compte le plus pour que ces enfants soient effectivement riches en ces substances-là, anti-allergiques qu'on pourrait dire, eh bien, qu'est-ce qu'on retrouve ? Consommation du lait de la ferme, évidemment par la mère, là. Hein ? Les bébés, ils viennent de naître, ils n'ont jamais consommé quoi que ce soit. Hein. Et puis, ben, on retrouve hein, exposition à l'étable, exposition à la grange, hein, et contact avec les animaux de la ferme. C'est vraiment des choses qui ressortent beaucoup. Ce qui est amusant, c'est que non seulement ça sort chez les fermiers, c'est les ronds noirs, mais ça sort aussi chez les non-fermiers. Hein. C'est-à-dire que si les mères qui pourtant ne vivaient pas à la ferme, etc., ont eu des contacts très fréquents avec les animaux, sont allés à la ferme de leur cousine, de leur tante, etc., tous les trois jours, etc., eh bien, elles auront, et pareil pour la consommation, de lait cru. Donc, bon, les mécanismes, bon, les travaux antérieurs, là, je vous parlerai pas de ce qu'on vient de sortir, c'est vraiment trop nouveau, mais la plupart des travaux antérieurs avaient essayé de travailler sur les endotoxines. Alors, qu'est-ce que c'est les endotoxines ? C'est des substances qui sont dans les bactéries, ce qu'on appelle les bactéries à gram négatif, et c'est des substances dont on sait qu'elles modulent justement le système immunitaire, qu'elles peuvent arriver à faire quelque chose. Donc les gens se sont dit, voilà des bons candidats, on va regarder un peu si c'est cette protection est accrochée aux endotoxines, et on pouvait imaginer que dans le lait cru, eh ben, il y a effectivement aussi des endotoxines. Bon. Donc effectivement, l'environnement de la ferme est riche en endotoxines, ça c'est clair. Il y a moins d'allergies respiratoires si l'environnement est riche en endotoxines, qu'on soit à la ferme ou qu'on n'y soit pas. Il y a des corrélations, hein, des relations entre les taux d'endotoxines dans les lieux de vie et dans les étables. Donc, on peut bien imaginer qu'effectivement, si on, dans son lit, on respire des endotoxines qui ont été apportées par les parents quand ils circulent entre l'écurie et la maison, la grange et la maison, etc., on va pouvoir être en contact avec ça. Hein. Et puis, bon, il y a des études un peu sophistiquées, immunologiques, qui ont montré des relations entre certains aspects génétiques de la reconnaissance des endotoxines, puisque nous savons reconnaître des endotoxines, bien sûr, hein, et la vie à la ferme. Alors, ce qui est nouveau et c'est intéressant parce que c'est un peu inattendu et ça casse un peu la baraque des endotoxines, c'est que en fait tout le monde parlait d'endotoxines, tout le monde parlait du lait cru, mais jamais personne n'avait réellement regardé si le lait cru était très riche en endotoxines. Et donc ça a été fait dans le cadre de l'étude Pâture, là que je vous ai présentée, à laquelle on participe. Et en fait, curieusement, ça peut trouver des explications, hein, le lait UHT conservé dans les familles de non-fermiers ou le lait pasteurisé, parce que UHT c'est vraiment typiquement français, c'est là qu'on a pu s'apercevoir que les gens ailleurs, c'est pas le même lait que nous, mais quand c'est des familles de non-fermiers, il y a moins d'endotoxines que dans le lait, le même lait conservé par les fermiers ou que dans le lait cru. Juste un petit mot du mécanisme, hein, dans le lait cru et dans d'autres choses de l'environnement de la ferme, on imagine maintenant, on a quelques preuves de ça, qu'il y a des signaux qu'on appelle immunorégulateurs, hein, c'est-à-dire que les expériences de l'infection, mais aussi d'environnement, le lait cru en est un, vont induire ce qu'on appelle une tolérance, et que un allergique, il a une balance déréglée, hein, ce qu'on appelle TH2, c'est ce qui l'emmène vers l'allergie, TH1, c'est ce qui lui permettrait de combattre. Et on sait que pendant la vie fœtale, hein, pendant la grossesse, le bébé, ben, il est comme ça. Il est de travers. Hein, il a plus de TH2 que de TH1. Et ce qui le remettrait dans le droit fil de la balance, là, bien équilibré, ça serait toutes ces expériences. Et le lait cru, justement, contiendrait tout un tas de choses qui permettent de redresser la balance. Alors, qu'est-ce qui reste à comprendre? Ben, beaucoup de choses, vous avez pu voir. Hein. Est-ce que dans les études prospectives, on trouve la même chose dans les cohortes comme celle de Pâture que dans les études transversales? Le premier élément de réponse est oui, effectivement. Donc, il y a bien du vrai scientifique là-dedans. Est-ce que la protection est acquise pour la vie? Il semble que pas tout à fait. Oui, c'est important que on soit exposé à tout ça pendant la première année de vie. Oui, c'est important que la mère y soit aussi pendant sa grossesse. Mais il est vraisemblable que c'est quelque chose qui se perd quand même avec le temps et qu'il faut réactiver régulièrement. Est-ce qu'il y a une place pour les fromages au lait cru dans la prévention des allergies? On a beaucoup d'éléments pour dire que vraisemblablement oui. Hein, et ce que nous a montré Eric que dans la composition de la flore justement du lait cru montre bien que du lait cru et des fromages au lait cru montre bien que ça va vraiment plutôt dans le bon sens, hein, c'est-à-dire une diversité de la microflore qui sont liées à des facteurs nutritionnels, donc le lait, le fromage, etc., et environnementaux, est importante pour l'établissement d'un système immunitaire de bonne qualité, qui ne va pas vous emmener vers l'allergie, mais qui va vous permettre de vous défendre correctement contre les microbes qui vous veulent effectivement du mal. Donc on a vu, hein, cette consommation de lait cru par la mère pendant sa grossesse, l'enfant au cours de sa première année, bon, il y a une protection, ça vraiment c'est dur que dur, et on le retrouve dans l'étude de Pâture, hein, ça confirme cette influence, et donc c'est clair qu'en raison de la richesse en flore microbienne, la diversité des souches et aussi la diversité des produits qui chaque fois redonnent une autre diversité de souches, bon, la consommation de fromage au lait cru sont vraiment de bons candidats. Et j'ai mis « et encore », j'espère pour longtemps, à la portée de tous, parce qu'évidemment, il est clair qu'on va pas retourner dans la ferme de nos grands-parents, arrière-grands-parents, etc., pour nous protéger contre les allergies. Malheureusement, c'est bâché, ça. Hein. Et je dirais qu'on voit bien, quand on compare nos cohortes, hein, la franc-comtoise, la finlandaise, l'autrichienne, etc., nous, en France, je dirais qu'on a fait tellement de progrès dans l'agriculture, peut-être parce qu'on était bien subventionné par l'Europe, mais c'est vrai que on est actuellement les moins protégés de toutes les cohortes. Et c'est vrai que nos fermes sont plus modernes, la plupart des familles habitent dans une maison qui est séparée de la ferme, il y a un changement de mode de vie de l'agriculteur qui est Bac+2, etc., avec une femme qui travaille à la ville, etc., en France, qu'on ne retrouve pas chez nos collègues des 4 autres cohortes. Hein. Donc c'est sûr que le retour à la ferme, je pense que vraiment c'est utopique. Hein. On peut toujours aller se balader chez la ferme dans la ferme d'à côté pour protéger son gamin, mais ça sera certainement pas suffisant. Alors qu'on peut imaginer que le fromage au lait cru, ça soit vraiment quelque chose d'accessible, facile, qu'on peut en plus moduler à l'infini. Hein. Il y en a des centaines de sortes, donc ça peut aller. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est que les études scientifiques capables de démontrer viennent seulement de commencer. Comme je vous ai dit, hein, on a enregistré hein, ce qu'avaient consommé les enfants pendant leur première année de vie. Ils ont des questionnaires tous les 6 mois où on sait exactement ce qu'ils ont mangé, quel type de fromage, etc. Donc, il faut attendre un peu hein, pour avoir un peu plus de réponses. On a un nouveau programme européen qui vient d'être accordé, on est très content. Il s'appelle ProHumain. Et dans ce programme européen, il y a un volet spécial, un work package, comme ils disent, sur le lait cru, hein, analyse du lait cru, pourquoi le lait cru, qu'est-ce qu'il y a dans le lait cru, etc. Ce que je déplore, mais il a fallu qu'on fasse ce projet tellement vite, et on a parlé avec Eric un peu trop tard, c'est que à ce projet, dans ce paquet de travail, comme ils disent, lait cru, il n'y ait pas un peu la même chose en couleur sur justement fromage au lait cru avec le même type d'analyse et qui pourrait justement confirmer les hypothèses qui sont soulevées par tout ça.
Vous venez d'entendre les interventions de Monsieur Xavier Bertrand et Madame Dominique Angèle Vuitton dans le cadre de la conférence organisée par la Fondation Sciences et Culture Alimentaire de l'Académie des Sciences. C'était dans le Jura à Arbois en septembre 2007.